votre balado pédago.
Bonjour, bonjour. Ici Frédéric Jean, Yann Sekang, pédagogue, et je suis avec Mira Auvergne-Ringuette de Intention Pédago.
Salut,
numérique.
C'est encore moi!
Comment ça va?
Ça va super bien!
Nous
c'est
autres,
la deuxième journée, je suis pas encore fatiguée.
On a tellement travaillé ensemble hier et on continue!
Ben oui, écoute, on doit s'apprécier quelque part, un
ça
petit
doit,
peu quand
ça
même.
Ça doit y avoir des atomes crochus, mais il n'y a pas juste nous, il y a aussi Simon. Comment ça va?
Très bien, et toi?
Ça va super bien. Merci de prendre le temps d'être avec nous autres.
Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Puis comment ne pas bien aller dans une journée comme ça avec toute l'effervescence, les formations, le réseautage? Belle journée.
T'as bien raison. C'était qui, toi, Simon? Là? On t'écoute, là.
À la base, j'enseigne au secondaire, formé comme prof de sciences.
Il fallait que je dise Duguay, Simon Duguay.
Oui, effectivement, c'est mon nom de famille. Formé comme prof de sciences, j'ai un cours d'éducation aux médias, j'ai une charge de cours en didactique des sciences à l'université. Et en fait, beaucoup de monde m'ont connu pour mon implication en intelligence artificielle en éducation.
On a okay. un peu entendu parler de toi quand ChatGPT est sorti. Hey boy, merci
oui.
d'avoir
Juste
été
un
là.
Petit peu. J'aurais jamais cru dans mes rêves les plus fous que la dernière année se serait produit, mais c'est ça qui s'est passé. Mais c'est ça, bref, on m'a connu pour ça. J'ai d'autres centres d'intérêt aussi, pour ceux qui se posent la question. Il n'y a pas juste l'IA dans ma vie. Mais j'aime bien ça, j'aime bien en parler. Là. C'est pour ça, c'est ça.
Racontons un peu ton histoire en lien avec l'intelligence artificielle. Tu avais parti d'une page Facebook.
Oui, moi, à la base, l'intelligence artificielle, c'était quelque chose que j'abordais déjà avec mes élèves avant l'arrivée de ChatGPT. On parlait de taux qui se conduisent tout seul, on parlait de logiciels de reconnaissance faciale qui ont de la misère avec les personnes qui ne sont pas des hommes et qui ne sont pas blancs. C'était une situation qu'on abordait parce qu'il y a certaines
oh, ouais.
IA. Oui, il y a certaines IA qui étaient à cause de leur entraînement. Si on entraîne, par exemple, des intelligences artificielles sur des données d'une population qui est plus homogène, bien, elle va avoir de la difficulté à fonctionner avec des personnes qui ne font pas partie de cette population. Et voyons ça à l'inverse. Par exemple, en Asie, les IA développées en Chine n'ont aucun problème à discerner les personnes asiatiques, ont plus de problèmes à discerner les Européens, les Américains. Donc, c'est vraiment une question de comment les IA ont été entraînées. Il y a des questions éthiques. Puis moi, j'abordais ces questions éthiques-là avec mes élèves au secondaire. Et là est arrivé ChatGPT qui a, entre autres, ces mêmes problèmes-là. Donc là, je suis un peu sauté dans la mêlée là, en me disant, je vais partir à un groupe Facebook, on va être une cinquantaine de profs dessus, on va se partager des idées, ça va être ça.
Rendu à combien?
6700 quelques personnes.
Il y avait un besoin.
Toutes des profs?
Il y a des enseignants, il y a des conseillers pédagogiques, il y a des chercheurs, il y a des personnes du Québec, il y a des personnes du Canada francophone, il y a des personnes d'Europe, du Maghreb, il y a des personnes... Oui, principalement au Québec, mais je suis fier d'avoir réussi à partir quelque chose, un mouvement ou du moins un lieu où on peut échanger en français sur ces enjeux-là. Et je trouve ça important. Il y a beaucoup de choses. L'IA, c'est un domaine qui est technologique, donc il y a beaucoup de ressources en anglais qui existent, mais d'avoir un endroit où on peut développer ces ressources-là en français, qu'on peut travailler sur les enjeux en milieu francophone, pas seulement au Québec, mais dans les milieux minoritaires, dans le reste du Canada aussi, je trouvais ça important. Puis je suis content que ça l'ait quand même donné ça.
Dans un contexte pédagogique aussi, il faut le dire. Tu sais, ça a été très clair dans les petites écritures qu'on ne lit pas tout le temps, mais d'aborder ça dans un angle qui demeure pédagogique, qui demeure, tu sais, on n'a pas le goût de s'ostiner sur le pourquoi toi tu ferais ça dans ta classe, voyons donc, tu devrais pas, blablabla. Donc, tu sais, c'est bien, chacun apporte ses connaissances sur la table. Mmh. Après, ce qu'on en fait, ben c'est le mieux qu'on peut en classe, mais ça a été super riche, en tout cas, je m'en suis servi quand même pas mal, je te dirais.
Oui, mais ce que je trouve fantastique avec le groupe, là, et moi, ce que j'avais peur, c'est de gérer du drama. Parce ouais. que des groupes Facebook en éducation, ah, j'en ai vu plein.
Non,
là, que les modérateurs, c'était quasiment un emploi à temps plein.
Oui.
Et moi, j'ai quelques petites situations, là, mais mineures, là, presque pas grand-chose. Puis la communauté est riche, elle est fun, le monde s'encourage, les personnes proposent des idées. C'est très rarement dans le négatif. Souvent, tu pensais à telle chose, voici telle ressource. Souvent, je fais juste écrire, hey, je cherche un document sur telle chose. Puis là, les personnes commandent des choses. C'est vraiment fantastique. Quand on est plusieurs personnes à vouloir construire ensemble, puis prenons le temps de le faire, je pense qu'on peut faire de belles choses.
Tout le monde est relativement parti du même inconfort. Là. Je veux dire, il n'y a pas personne qui... En tout cas, pas beaucoup, qui se dit absolument expert. Et bon, ben moi, voici la ligne directrice à prendre avec cette nouveauté-là qui s'en vient en éducation. Donc, c'était un peu, tout le monde était un peu dans la même instabilité, je te dirais, puis oui. Vulnérabilité peut-être même, ce qui fait en sorte que, ben, je veux pas, on est davantage dans l'entraide que dans le... Moi, je connais de quoi je parle, donc tassez-vous de mon chemin.
Là. Effectivement, c'est la question de l'évaluation, en fait, qui a été une des premières motivations pour le groupe. Là, on ne se le cachera pas. Moi, quand j'ai vu, je suivais des groupes de programmation, puis là, quand 2-3 jours après l'arrivée de ChatGPT, je voyais plein de captures d'écran du même site web qui rédigeait du code de manière donc bien fantastique. Je me demandais ça venait d'où. Je l'ai essayé. Puis après avoir essayé de générer du code, je me suis dit, je vais prendre une des questions que j'ai envoyées à faire en devoir récemment à mes élèves, voir qu'est-ce qu'il va dire. Puis là, je me suis dit, oh, on a peut-être un petit problème. Mais je suis content de voir que la discussion a beaucoup évolué. On n'est pas resté seulement sur l'éducation. Puis rapidement, les acteurs du milieu de l'éducation se sont mis en mode, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Où est-ce que ça peut nous amener? Est-ce qu'on peut s'en servir pour aller plus loin? Est-ce qu'on peut s'en servir pour éduquer aux élèves des enjeux relatifs aux technologies? Pas seulement l'intelligence artificielle, mais il y a plein d'autres technologies qui ont des enjeux éthiques sur la société. On forme les citoyens de demain, mais c'est important que nos élèves soient capables de réfléchir, que ce soit sur l'IA, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur n'importe quoi, que nos élèves soient capables d'avoir une réflexion riche sur un sujet de technologie. Donc ça, il y a plein d'autres aspects, mais bref, on a grandi, je ne vais pas dire grandi, mais on a pris le sujet, on a amené ça plus loin en un an et des poussières. Je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de beau comme communauté.
Tu es à l'école secondaire, la Rochebelle?
Oui.
Tu enseignes quoi?
J'ai un cours maison d'éducation aux médias, de citoyenneté numérique et d'informatique. Donc, on a réussi à faire de la place là, pour que tous nos élèves, selon le programme, c'est à des niveaux différents, mais tous les élèves qui passent par notre école ont au moins un an de 2 périodes cycles où on aborde plein de sujets. Donc, oui, on parle des nouvelles technologies comme l'IA, comme les réseaux sociaux, des choses comme ça, mais on parle de citoyenneté numérique. On parle récemment, on était sur le sujet de la haine en ligne, puis de qu'est-ce qu'on devrait, certaines limites par rapport à ça. On aborde le côté moral, toute la question des outils technologiques, comment on les utilise dans nos cours, comment on les utilise dans d'autres domaines, c'est quoi les bons usages du numérique. On parle du téléphone cellulaire, hein, la relation qu'on entretient avec. Quelle stratégie est-ce qu'on peut mettre en place pour en faire un usage qui est peut-être plus bénéfique pour nous? Donc, c'est toutes ces choses-là. Et c'est vraiment fantastique parce que j'ai une belle confiance de ma direction pour aborder ces différents enjeux-là. Et on voit que c'est quelque chose qui touche les élèves. Les élèves, ils me le disent, hein, c'est tellement concret parce que, oui, on est dans le comment utiliser tel outil, dans les réflexions éthiques. Mais pour eux, c'est quelque chose qui ont quasiment 24 heures sur 24 à moins de 1 mètre de eux, leur téléphone, les ordinateurs. Donc, pour eux, d'aborder ces questions-là, je pense que ça a une certaine pertinence sociale. Je prêche pour ma paroisse, là.
Ben, t'ouvres la pensée critique.
Ben oui!
Fait que ça fait partie de l'ADN aussi, peut-être, de ta formation que tu donnes aux jeunes? Ou?
Oui, absolument.
Comment t'organises ça?
On a plein de thèmes dans l'année. Fait que j'y vais vraiment par thématique. Des fois, on a la thématique programmation. On fait de la programmation sur Scratch. On fait un peu de robotique. On fait du 3D. Puis là, après ça, ben là, récemment, par exemple, il y a des activités qui ont été montées, par exemple, par le récit sur les différents discours qu'on peut avoir en ligne, sur qu'est-ce que tu devrais publier, qu'est-ce que tu ne devrais peut-être pas publier ou commenter. Donc, on est différent. Donc, selon la formule pédagogique va changer en fonction de l'activité. Quand on est plus dans l'utilisation des technologies, moi, j'aime ça être dans l'action. Mais des fois, il faut être dans la réflexion aussi, comme la citoyenneté numérique. Mais là, on peut avoir des ateliers de délibération. On peut avoir plein de choses là, pour amener la réflexion plus loin avec les élèves.
Ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi un rôle à l'université.
Oui.
Donc, tu vois ce passage-là, là, tu dois recevoir parfois des étudiants qui t'arrivent et que tu as vu évoluer, progresser secondaire, peut-être?
Je n'ai pas encore
eu. Pas encore?
Pas encore. Ça va s'en venir. Mais ça se pourrait, là, dans les âges, là, mes étudiants à l'université, j'aurais pu leur enseigner au secondaire. Ce n'est pas encore arrivé. Mais j'ai l'impression que je risque de prendre un petit coup de vieux. Là,
comment ton rôle, je veux dire, il y a quand même la différence de ton rôle versus secondaire versus ce que tu fais à l'université. Qu'est-ce que tu donnes comme cours? Là?
Bien, je pense que les deux s'enrichissent beaucoup l'un de l'autre. Être chargé de cours à l'université me force, veux pas, à rester quand même près de la théorie, à continuer à lire des choses, comme enseignant aussi, là, mais comme chargé de cours, je suis un peu obligé là, de rester là-dedans. Mais en même temps, comme enseignant au secondaire, je travaille beaucoup sur comment est-ce que cette théorie-là est appliquée. Donc, je pense que ça va donner une saveur à mon cours à l'université qui, oui, je vous présente la théorie, mais maintenant, voici comment Même moi, je suis capable d'appliquer cette théorie-là en contexte pratique. Et avec mes élèves, bien, il y a des choses que je vais réfléchir dans des lectures à l'université. Puis je me dis, hey, ça, je pourrais essayer ça avec mes élèves au secondaire. Ça l'a donné quelque chose d'intéressant dans un contexte de recherche. Que puis-je faire avec ça? Et là, ça me permet de d'enrichir autant mon niveau secondaire que mon niveau universitaire.
Quand on dit qu'on a de la misère à faire le pont entre la salle de classe et l'université, toi, tu as décidé d'ouvrir le pont.
Oui.
Oui, c'est l'eau, fini.
Oui, ben les deux emplois nécessitent que le pont se fasse. Si le pont ne se faisait pas entre les deux, j'aurais un peu de difficulté à présenter des choses à mes étudiants en disant même moi, je suis pas capable de l'appliquer. C'est sûr que ça passe mal comme message. Des fois, il faut tester.
Tu donnes quoi comme cours? C'est quoi le cours de son université?
Didactique des sciences au secondaire.
OK.
Ouais. Donc, les futurs enseignants de sciences au secondaire à l'Université Laval là, passent par mon cours, autant au baccalauréat en enseignement qu'à la nouvelle maîtrise qualifiante. Là. Donc, les étudiants passent par mon cours relativement tôt dans leur parcours. Puis souvent, je co-donne le didactique 3 là, plus tard dans leur parcours. Donc, je les revois un petit peu plus tard aussi. Là. Intéressant pour ça aussi. Puis là, ben, des fois, ils arrivent dans mon milieu, ils font des stages. J'ai des collègues que j'ai formés à l'université. Fait que c'est sûr que ça met une certaine pression en me disant, c'est sûr que là, si je fais pas bien ma job, ça arrive dans mon milieu après. Mais à date, ça va bien. Fait que je me dis que ça doit être...
Fait que tu as une bonne job. C'est
ben,
ça
j'oserais croire que je suis adéquat.
OK. Là, tu étais à la COPS.
Oui.
Pour combien... Là, je veux savoir, tu pars dans très peu de temps, dans moins de 15 minutes. Là. Tu t'en vas faire quoi?
Un panel avec Marie-Ève Lapolice, avec Alexandra Coutelet, animé par Alexandre Bazinet, sur les changements numériques en éducation, principalement autour de l'intelligence artificielle. Donc, on va avoir une discussion sur quels changements apporte cette technologie-là dans le milieu de l'éducation et comment est-ce qu'on peut s'y adapter, autant comme enseignant que comme équipe école, à ces changements-là, là, en proposant différentes pistes de réflexion et de discussion.
Ça me fait penser. Toi qui étais à La Rochebelle, c'est ça que t'es?
Oui.
Okay. À La Rochebelle, comment ils sont? Est-ce qu'ils en parlent beaucoup de ça, de l'intelligence artificielle? Sont-tu informés ou c'est toi qui es encore la bébite, Simon?
Je suis encore une bébite, mais je suis une bébite dans un milieu qui est effervescent, dans un milieu dans lequel je me sens appuyé. J'ai des idées de réflexion, tout le monde, autant la coordination des programmes que mes collègues, on s'en parle, on échange là-dessus, on amène la réflexion plus loin, mes directeurs, on réfléchit à ça ensemble, on pousse, rapidement, là, on est tombé, le ChatGPT est sorti fin novembre, début décembre. Fin janvier, on faisait un premier webinaire pour toute la commission scolaire pour dire voici qu'est-ce que c'est, voici qu'est-ce que ça peut faire. Début février, on commençait à faire des ateliers sur bon, vous avez peur par rapport à vos évaluations, voici quelle piste d'action est-ce qu'on peut faire pour adapter nos évaluations, voici quelle piste aussi pour voir d'autres modes d'évaluation. Nous, on s'en est servi comme levier de développement professionnel, et donc pour voir, bon, quand on parle de triangulation des apprentissages, quand on parle d'utiliser l'entrevue pour faire de l'évaluation, ça peut être super intéressant. Donc, on a fait des formations là-dessus. On continue à réfléchir. Là, cet automne, je faisais une formation sur comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils-là à titre d'enseignant de manière éthique. Donc, autant les considérations à avoir que le potentiel que ça peut nous apporter. Donc, c'est sûr que rapidement, là, je poussais la discussion. Je ne le cacherai pas que c'était moi un peu tannant qui allait voir les gens en disant « Ah, tu pensais à ça? »
Ça donnait un bon tremplin quand même.
Oui, vraiment. Mais j'ai été dans une équipe incroyable pour ça. Je suis toujours d'ailleurs et je suis bien content d'y être, là, mais l'équipe est tellement le fun. Fait que c'est toujours plaisant quand tu es avec des collègues qui trippent autant que toi, qui veulent amener, qui ont les mêmes valeurs au cœur que toi, de dire on fait ça pour les élèves, pour les éduquer, puis on veut aller loin là-dedans. Bien, d'être encouragé là-dedans et soutenu par l'équipe, là, c'est vraiment... Je ne serais pas ici à discuter avec toi, avec vous deux, si ce n'était pas de mon équipe qui avait su m'encourager, m'aider à amener la discussion plus loin, qui m'avait challengé là-dessus, qui vraiment, là, ça fait une grosse différence, l'équipe, dans une école.
Fait que toi, tu es nourri par ton équipe?
Absolument, absolument. Ouais. Ben, je ne changerais pas d'école, là. Je veux dire... dans mon parcours, bon, j'ai eu mon premier contrat à Rochebelle, je connaissais pas vraiment l'école, j'en avais entendu parler, c'était dans mon CSS, mais je connaissais pas trop de personnes là. Je suis tombé en amour avec l'équipe école et là, finalement, je me suis toujours arrangé pour avoir des contrats là. C'est devenu mon poste, puis j'ai bien du plaisir.
Ben, Colin, ça fait pas mal le tour de notre rencontre avec M. Simon Duguay.
Simon, une dernière parole inspirante pour ceux qui se lancent, là, parce qu'on s'entend que le colloque a parlé beaucoup d'IA. Ça serait quoi ton conseil à donner à ceux qui n'ont pas trop osé faire les premiers pas encore là-dedans?
Trouver quelqu'un qui vous forment dans une... Maintenant, il y a tellement de personnes qui font des formations, qui font des trucs. Là. Allez-y avec quelqu'un qui est soit dans votre discipline, qui a une manière de penser un peu comme vous. Allez voir qu'est-ce qu'il y a à dire.
Oh, bon,
essayez-le. Une fois que vous l'aurez essayé, là, poussez la réflexion plus loin.
Merci.
Merci, Simon.
Ça fait plaisir.
Votre balado pédago.